Alors, la prédication que je vais vous apporter ce matin, je l'ai faite à partir du texte de Josué 18, les versets 1 à 10. Alors, avant de commencer la lecture, tout d'abord, la plupart d'entre vous, j'en ai vu aucun la semaine dernière, je n'étais pas là, j'étais en vacances. Et du coup, j'espère que vous êtes tous passés de joyeuses Pâques. Christ est ressuscité. Bon, vous avez été là la semaine dernière, c'est bon. Ça me rassure. J'étais pas là, mais vous avez été là. Quelle victoire glorieuse sur le péché et la mort. Et cette victoire sur le péché, cette nouvelle vie en Christ, est symbolisée par le chrétien, pour le chrétien, par le symbole de la résurrection de la mort et de la résurrection du Christ. Aïe, 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 il va falloir. Quelque chose que vous avez tous. Si vous êtes chrétien engagé avec Christ, vous allez faire ou vous avez déjà fait. Le baptême. Le baptême, oh merci. Le baptême. En effet, dans Colossiens 2:12, on peut lire « Enseveli avec lui par le baptême ». Vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Qui est passé par les eaux du baptême dans cette salle?
Deux fois.
Deux fois. Oui. Donc la double résurrection existe. Et qui peut témoigner de la puissance de Dieu dans sa vie? Waouh! Deux fois? Ah, j'espère plus! J'espère plus! On peut dire qu'avec Christ, on est victorieux. Et comme vous, le récit que nous allons lire parle de gens qui sont victorieux. Le peuple d'Israël. Pour vous remettre un peu dans le contexte, ils ont vu Dieu à l'œuvre. Eux aussi, comme vous, qui êtes passés par les eaux du baptême, ils ont changé de vie. Ils ont traversé des eaux, non du baptême, mais du Jourdain. Et de la façon la plus spectaculaire qui soit. Ils n'ont pas pris le bateau, ils ont traversé, droit le fleuve, à pied sec, s'il vous plaît. Dieu a fait partager les eaux du Jourdain, comme il l'a fait pour la mer des roseaux. Waouh! J'espère que ça n'arrivera jamais lors d'un baptême, parce que sinon on aura un problème. Mais le baptême, c'est quelque chose de fort dans la vie du chrétien. Et pour le peuple d'Israël, ce passage du Jourdain est quelque chose de fort. D'un peuple nomade dans le désert, ils vont devenir le peuple de Dieu dans le pays promis. Ils vont devenir sédentaires. Ils n'auront plus à voyager. Une promesse que Dieu a faite il y a longtemps à leur ancêtre Abraham. Et comme vous, les Israélites ont dû se battre pour en arriver là. Qui de vous n'a pas dû se battre, ou moi je l'ai fait en tout cas, contre d'anciennes habitudes, contre le péché, contre toutes ces situations qui mettaient à l'épreuve notre foi naissante? Les Israélites ont dû se battre, eux, pour conquérir le pays promis. Et là encore, moi je peux dire, j'étais victorieuse dans les batailles de ma foi, grâce à Dieu. Et les Israélites ont été victorieux, et de façon parfois spectaculaire. Souvenez-vous de Jéricho, souvenez-vous de Makeba ou d'Ayalon, le soleil qui s'arrête dans sa course. Waouh, Dieu intervient. Et voici, on se retrouve maintenant au moment de notre récit. La conquête du pays promis a commencé, on ne sait pas trop, mais approximativement, vers 1451 avant Jésus-Christ. Donc, chiffre à prendre avec des pincettes, hein, c'est de l'archéologie, il n'y a rien d'écrit comme ça dans la Bible, mais à peu près pour vous donner une idée. Par la prise du pays de Galaad, qui se situe à l'est du Jourdain, et ensuite, après la traversée, ça a continué, et maintenant, le pays est à peu près conquis. Le territoire est en paix. Et c'est là qu'on va commencer notre lecture. Toute la communauté des Israélites s'assembla à Silo. Ils les placèrent la tente de la rencontre. Le pays était soumis devant eux. Il restait 7 tribus des Israélites qui n'avaient pas encore reçu leur part d'héritage. Josué dit aux Israélites, « Jusque à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné ? Choisissez-vous 3 hommes par tribu et je les enverrai en mission. Ils se lèveront, parcourront le pays, en feront le relevé suivant leur héritage et reviendront auprès de moi. Ils se le répartiront en 7 parts. Juda restera dans ses frontières au sud et la maison de Joseph restera dans ses frontières au nord. » Donc, les tribus Juda et celle de la maison de Joseph ont déjà reçu leur part d'héritage. « Vous donc, vous ferez le relevé du pays en 7 parties et vous me l'apporterez ici. Je jetterai pour vous le sort ici même devant l'Éternel votre Dieu. Mais il n'y aura pas de point de part pour les Lévites au milieu de vous, car le sacerdoce de l'Éternel est leur héritage. Et Gad, Ruben et la demi-tribu de Manassé ont pris en Transjordanie, à l'est, leur héritage que Moïse, serviteur de l'Éternel, leur a donné. Ces hommes se levèrent et partirent. Josué avait donné cet ordre à ceux qui allaient faire le relevé du pays. « Allez, parcourez le pays, faites-en le relevé, revenez auprès de moi, puis je jetterai pour vous le sort devant l'Éternel à Silo. » Ces hommes partirent, traversèrent le pays et firent sur un document le relevé en 7 parties selon les villes. Ils revinrent auprès de Josué dans le camp à Silo. Josué jeta pour eux le sort à Silo devant l'Éternel. Et il fit le partage du pays entre les Israélites d'après leur répartition. Alors, la conquête, je dis, elle avait commencé vers 1451. 2 tribus et demie ont eu un territoire avant le passage du Jourdain. Puis, le territoire est conquis à l'ouest du Jourdain et le partage se fait. Mais, seulement 2 tribus et demie ont un territoire. Par conséquent, il reste 7 tribus qui n'ont rien. Sur 12, ça fait une grosse partie quand même. Entre le début de la conquête et ce moment-là, on compte à peu près 7 années. 7 ans et plus de la moitié du peuple de Dieu qui n'a pas reçu sa part. Dieu avait un plan pour tout le peuple d'Israël. Il voulait leur donner un pays ruisselant de lait et de miel. On voit ça dans Deutéronome et dans le début de Josué aussi. Un pays ruisselant de lait et de miel. Qui est gourmand dans la salle ? Moi ! Ah, d'accord ! Pas plus gourmand que moi. Pas possible. Du lait et du miel. Bon, de nos jours, on dit que c'est plutôt pour les enfants. Mais à l'époque, le sucre, c'était pas encore courant. Le lait et le miel, c'était la gourmandise. Franchement. Il veut leur donner un pays en abondance. Et pour nous aussi, Dieu a un plan. Jésus dit, « Je suis venu afin que les hommes aient la vie et qu'il ait en abondance. » Jean 10:10. Dieu a un plan pour ta vie. Il a un menu spécial pour toi. Et c'est lui qui invite. Alors imaginez un repas offert par Dieu. Au vrai sens du terme, je crois que ce serait un régal. Offert par le roi des rois. Je vous laisse quelques secondes pour imaginer. Un repas et Dieu invite. À un tel repas, il serait dommage de s'arrêter à l'entrée. Vous êtes d'accord ? En France, on mange en général l'entrée, voire 2 entrées, voire 1 plat, 2 plats, dessert, etc. Imaginez, vous êtes invité par le roi des rois et vous ne mangez que l'entrée. Ah, je suis sûre qu'elle est excellente, l'entrée. Je suis sûre que c'est super bon, l'entrée. Eh bien, c'est ce qu'ont fait les Israélites. Ils sont rentrés. Ils ont mangé l'entrée. Ils ont trouvé ça super bon. Et ils se sont arrêtés. Et là, Josué leur dit, il y a quand même tout un pays encore à conquérir, à se partager. Et vous, vous êtes arrêtés à l'entrée. Alors, pourquoi les Israélites ont fait ça? Parce que quand Dieu invite, contrairement à ce que vous faites quand vous invitez, Dieu met à disposition d'excellents ingrédients, super qualité. Si on reportait ça au terrestre, ce serait caviar, foie gras, etc. Il y a certains qui n'aiment pas, visiblement. Ça peut être des huîtres, du bon fromage, ce que vous voulez. Mais Dieu met à disposition les ingrédients, mais c'est vous qui devez cuisiner. Et rien que pour l'entrée, les Israélites ont dû lutter. N'est-ce pas? Haï, ils ne l'ont pas conquise comme ça. Il y a eu des merveilleuses victoires, mais il y a eu des heures et des heures de batailles acharnées. L'entrée dans la vie avec Christ n'est pas facile non plus. Pour de bonnes raisons, et tu l'as très bien illustré lors de ton témoignage tout à l'heure. C'est que la vie, notre vie avant de devenir chrétien, elle appartenait au diable. Comme le pays promis appartenait au peuple qui habitait avant. Et le diable n'a aucune envie de céder ne serait-ce qu'un pouce de terrain au Christ. Alors il faut lutter. Qui se souvient des batailles livrées pour donner à Christ la place qu'il a maintenant dans votre vie? Moi je m'en souviens. J'ai lutté. Sur certains points, je lutte toujours. Et des batailles livrées, non pas comme les Israélites, contre des personnes, mais souvent contre moi-même et contre l'esprit du mal, toujours. Et là, on se rappelle Paul qui dit dans Éphésiens 6, « Nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. » Waouh, nos adversaires sont de taille. Heureusement que Christ est avec nous. Souvent, les débuts dans la foi sont des moments intenses où l'on vit des choses spéciales. La bataille de Jéricho, je pense que les Israélites, ils n'ont pas dû l'oublier très vite. Dans notre foi qui naît, c'est souvent spectaculaire aussi. Alors, après avoir fait tous ces efforts, je suis fière, vous pouvez être fière d'avoir fait une belle entrée dans la vie chrétienne. Et cette rentrée, j'espère que vous l'avez bien dégustée. Mais parfois, on veut faire durer le plaisir de cette entrée. Et parfois, on fait tellement durer le plaisir de cette entrée qu'en fait, il ne reste plus rien dans l'assiette et que ce ne sont plus que des souvenirs. Alors il est grand temps de passer au plat. Et en effet, un plat nous attend après l'entrée. Un plat, et là vous allez dire, zut, c'est Dieu qui invite, c'est lui qui apporte les ingrédients, mais c'est nous qui devons cuisiner. Et oui, un plat qu'il va falloir cuisiner lui aussi, et ça, on n'a pas toujours envie de le faire. Qui aime la bonne cuisine? D'accord. Qui aime cuisiner? Ah, je vois qu'il y a déjà moins de mains qui se lèvent. Hein. Il y en a certains, c'est... Ouais. Des fois... Bon, j'ai une bonne nouvelle pour vous. De nos jours, il existe non seulement des restaurants, mais aussi le drive, n'est-ce pas? Et même le portage de plats à domicile. Oui, oui, oui. Mais ce n'est pas le cas quand Dieu invite. À la table de Dieu, il ne fait pas tout tomber dans notre assiette sans effort. Et le portage de repas, c'est chouette. Il y a quelqu'un qui vous apporte le repas, vous lui donnez de l'argent et vous vous mettez à table. Mais la réalisation du plan de Dieu pour votre vie, malheureusement, vous ne pouvez pas l'acheter avec ce que vous avez dans le porte-monnaie et même pas ce que vous avez sur votre compte bancaire. Moi, je dois vous avouer que j'ai une fâcheuse tendance à devenir comme les Israélites. Dans mon texte, il y a une anecdote, il y a une astérix qui dit que quand Josué dit « Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays ?» il dit, en fait, on pourrait le traduire par « Jusqu'à quand serez-vous nous ?» D'accord ? C'est à peu près ce que veut dire le texte hébreu. Et moi, j'ai tendance à me ramollir aussi dans ma foi. Je ne sais pas pour vous. J'ai envie de profiter des acquis de ma foi. Des acquis que j'ai lutté pour acquérir. Et vous ? Vous êtes-vous arrêté à l'entrée dans le menu du Seigneur ? Ou est-ce que vous êtes déjà passé au plat ? À plusieurs reprises, Paul compare la vie spirituelle à une course de fond. C'est par exemple le cas dans Philippiens 3. Et dans une course de fond, qui a déjà fait une course de fond ? Bien. Est-ce que tu es parti avec juste une entrée dans ton ventre ? Une course de fond, c'est par exemple un marathon. C'est une course de longue distance qui dure. Qui veut partir faire un marathon avec juste une entrée dans son ventre ? Ah, il faut manger plus, hein. Bon. Qu'est-ce que tu as mangé, Maxime, pour ta course ?
Des pâtes.
Bon, un bon plat qui tienne au corps, quoi. Dans la vie chrétienne, c'est pareil. Vous ne pouvez pas tenir la distance si vous vous arrêtez à ce que vous avez vécu à l'entrée. Il faut manger des pâtes. Dans cette course, Paul nous encourage à ne pas nous arrêter, à ne pas devenir mou ni tiède. Et c'est d'ailleurs un reproche qui est souvent fait aux chrétiens tout au long des lettres du Nouveau Testament. Jusque dans l'Apocalypse, chapitre 2 de l'Apocalypse, c'est un des reproches faits à l'église de Laodicée et de Sardes. Et si vous lisez cette lettre, c'est quand même un peu dur ce qu'il dit sur les chrétiens qui deviennent mous, sur les chrétiens qui ne mangent que l'entrée. Et je pense qu'en tant que chrétien, c'est là le plus grand piège que nous avons. Parce que c'est un piège insidieux. C'est pas un péché qu'on voit tout de suite. C'est pas un péché qui saute à la figure. C'est pas un péché dont la conscience nous taraude tout de suite. C'est quelque chose qui s'implante progressivement. Alors, est-ce que notre église s'est arrêtée à l'entrée ? Est-ce qu'elle s'est arrêtée dans sa course ? Ou continue-t-elle à remplir le plan que Dieu a prévu pour elle ? Est-ce que vous, est-ce que moi, est-ce que nous nous reposons sur ce que nous avons déjà vécu avec Dieu, sans continuer à chercher à faire sa volonté ? C'est là des questions importantes qu'il faut que chaque chrétien se pose toujours à nouveau. Cette question n'est jamais réglée une fois pour toutes. Alors, après l'entrée, est-ce que vous êtes prêt à placer au plat ? Oui ? On passe au plat. Alors, quand Paul reproche aux Galates qu'ils se sont arrêtés en course, il leur dit, pour ceux qui sont unis à Christ, ce qui importe, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'avoir la foi. Une foi qui se traduise par des actes inspirés par l'amour. La foi. Dans l'Église, on en parle beaucoup. Et si je demande à quelqu'un de me définir la foi, il va d'abord y avoir un grand blanc. C'est pas si facile que ça. Dans notre texte, il y a un homme qui a la foi. Dans le texte que je vous ai lu, quelqu'un a la foi. En même temps, il n'y a qu'un homme dont le nom est cité, vous allez me dire, c'est facile, c'est Josué, tout à fait. Josué exhorte les 7 tribus restantes d'Israël à prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de leur père, leur a donné. Attends, il les exhorte à prendre possession de quelque chose qu'ils possèdent déjà ? Là, vous me dites, Karen, il y a un souci avec ton texte. T'es sûre de ce que t'as lu ? Ouais, c'est écrit comme ça dans la Bible. C'est écrit. Visiblement, Josué considère déjà ce pays comme le leur. alors qu'il ne leur appartient pas encore. Cette assurance que le pays est déjà le leur repose uniquement sur la promesse de Dieu. Ça, mes amis, c'est un bel exemple de foi. En effet, la foi n'est-elle pas une façon de posséder ce qu'on espère, un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas? Hébreux 11. Est-ce que vous connaissez l'expression « être à l'école de Dieu » ? Oui ? On l'entend parfois dans nos églises. Moi, je ne vous parle pas d'ici d'école, vous avez compris, je vous parle de cuisine. Alors, je reformule l'expression « être commis dans la cuisine du grand chef ». De même que le chef est celui qui a la recette du plat succulent et sait comment le réaliser au mieux, de même, Dieu a un plan merveilleux pour que notre vie soit réussie. Qui ne veut pas que sa vie soit réussie? Bon, vous êtes tous à peu près normaux, c'est bien. Le commis de cuisine sait qu'en respectant les consignes du chef, le plat sera réussi, même s'il n'en connaît pas lui-même la recette. Ça, c'est fort. Et vous? Avez-vous la foi, comme Josué, que le plan de Dieu pour votre vie va se réaliser, même si vous n'en connaissez pas la recette? Moi, ça me rassure quand je lis des versets comme dans Éphésiens 2. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche en œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Ouf, c'est Dieu qui a préparé. Moi, j'ai plus qu'à accomplir. Plus qu'à, n'est-ce pas? On est d'accord que le plus qu'à, en termes divins, c'est pas forcément facile. Ces œuvres dans votre vie, est-ce qu'elles vont se réaliser? Allez-vous les réaliser? Parce que Dieu les a préparées, mais c'est à vous de cuisiner. Vous vous demandez peut-être comment discerner le plan de Dieu. Comment savoir si vous êtes toujours dans la course, si vous êtes arrêté à l'entrée. Philippiens 2, 13 dit « Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire le vouloir et le faire selon son projet plein d'amour. » Ah, alors c'est pas moi qui cuisine, en fait. C'est Dieu qui cuisine à travers moi. Waouh, ça devient compliqué. Mais, encore pour que Dieu puisse placer en nous le vouloir et le faire, il faut que nous voulions le laisser faire. Il faut être à l'écoute de Dieu pour connaître sa volonté. Et ça, ce n'est pas toujours facile. Qui trouve que entendre la parole de Dieu, entendre ce que Dieu veut pour nous, c'est facile? C'est pas facile. Moi, je trouve ça pas facile. C'est pourquoi Dieu met sur notre chemin des personnes qui nous reprennent et nous secouent quand on s'est arrêté à l'entrée. Et là, vous vous dites, ah Karen, là tu reviens sur Josué, n'est-ce pas? Tant mieux qu'il était là, Josué. Dieu nous entoure de chrétiens qui sont des modèles aussi pour notre foi. Dans Philippiens 3, toujours, Paul dit « Suivez tous mon exemple, frères, et observez comment se conduisent ceux qui vivent selon le modèle que vous trouvez en nous. » Waouh, je ne suis pas la seule à cuisiner. Il y en a d'autres qui ont remonté les manches aussi et qui cuisinent. Et peut-être que eux, ils savent un peu plus comment marche la recette. Dans la foi, suivre le modèle des autres, c'est bien. Vous avez le droit de copier. C'est la seule fois où, en tant que prof, je vais dire cette phrase. Vous avez le droit de copier dans la foi. D'accord? Ne copiez pas tout, soyez intelligents, mais vous avez le droit de copier. Ouf, mes profs ne m'entendent pas. Alors, vous vous dites peut-être qu'à force de suivre un plan préconçu, le modèle vécu par d'autres, les recommandations d'un tel, vous allez vous transformer en mouton. Et personne n'a envie d'être un mouton. Un mouton qui suit et exécute sans réfléchir. Est-ce que Dieu a envie de faire de nous des moutons? Je ne pense pas. Et si on regarde le texte que nous avons lu, ce n'est pas le cas. Bien que Dieu ait un plan pour notre vie, il nous laisse de la liberté dans son exécution. Quand vous commandez un plat dans le restaurant, qu'on vous pose l'assiette devant vous, est-ce que vous êtes obligé de la manger? Non? Non, personne ne vous oblige à manger le plat, même si c'est vous qui avez commandé et que vous qui payez. Vous avez le droit de ne pas le manger. Le plan de Dieu que Dieu a pour notre vie est comme un plat. Il est succulent, il est très très bon, mais il est proposé. Vous n'êtes pas obligé de le manger. Moi, j'ai envie de le manger, je suis gourmande, j'ai vraiment envie de le manger. Mais dans Hébreux 12, c'est écrit: c'est pourquoi nous aussi, nous sommes entourés d'une foule de témoins. Débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de côté, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Elle ne nous est pas imposée, elle nous est proposée. Et dans les versets 4 à 10 de notre texte, nous voyons qu'avant de prendre possession du pays, il fallait faire la répartition. Pourquoi Dieu ne dit-il pas tout simplement « Bon, alors, les villes telle, soit va aller à cette tribu-là, les villes un tel, cette tribu-là. » Pourquoi? Pourquoi envoyer des éclaireurs faire un relevé du pays? C'est peut-être une question de motivation. En parcourant le pays, ils peuvent se rendre compte que c'est un pays ruisselant de lait et de miel, que c'est un bon pays. Et donc, ils vont être plus motivés pour le posséder, pour en prendre possession. Mais moi, je pense surtout que c'est une question d'association. Quand je vous ai dit être commis dans la cuisine du chef, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Le commis n'a rien à dire sur la recette, d'accord? Il applique la recette du chef. Mais dans la cuisine de Dieu, Dieu nous fait participer à l'élaboration de la recette. Vous remarquerez que l'envoi des éclaireurs s'est fait grouper. Il n'a pas dit les trois personnes d'une tribu y vont, les trois autres d'une autre vont d'un autre côté. Il est important dans la foi de ne pas avancer seul. La foi, c'est quelque chose qui se vit ensemble. C'est quelque chose qui se vit dans l'interdépendance. Et ça, dans notre société individualiste qui a cloisonné la foi à la sphère du privé, ultra privé, c'est parfois très difficile à mettre en œuvre. Et là encore, je pense que Satan a un piège qui nous tend et dans lequel il attend que nous tombions. Garde ta foi pour toi. Ne parle pas de tes problèmes, de tes luttes. Allez, vas-y, fonce tout seul. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Dieu a fait entrer tout Israël dans le pays. Il ne l'a pas fait tribu par tribu. Qui parmi vous aime la tartiflette? Moi, je reviens de vacances, j'étais dans les Alpes, on a mangé des tartiflettes. Oui? Bon, vous êtes comme moi. Maxime m'a dit l'autre jour, une bonne tartiflette est encore meilleure quand on la partage avec des gens qu'on aime. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Eh bien, la foi est encore meilleure lorsqu'on la partage avec d'autres chrétiens. Et la cuisine du chef céleste, c'est pas une cuisine à manger tout seul. C'est une cuisine qui se partage. Alors, nous avons vu l'entrée, nous avons vu le plat, et vous allez me dire, Karen, pas de menu sans
dessert.
Alors, bon, moi j'ai eu 20 minutes pour parler, hein. Donc le fromage, on va le squeezer. J'ai fait un plan en trois parties. Excuse-moi, le fromage, c'est la quatrième, elle passe pas dans mon plan. Non, bref, vous trouverez une image pour le fromage. Tu viendras me la partager dimanche prochain, n'est-ce pas? Par contre, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée dans la vie chrétienne, qu'est-ce que le dessert? Ah oui, bien. Oui. Alors, je sais qu'il y a des gourmands dans la salle. Moi, je suis très gourmande et quand j'étais enfant, le but du repas consistait à atteindre le dessert. Surtout quand il s'agissait de manger des endives. Chez nous, il y avait une règle d'or. Pas de dessert avant d'avoir fini l'assiette.
Amen.
Vous rigolez ? Mais dans la vie chrétienne, c'est la même chose. Dans la vie chrétienne, c'est la même chose. Il faut finir la course pour remporter le prix. Il faut finir l'assiette pour avoir le dessert. Si vous vous arrêtez en route, pas de dessert.
On peut sauter.
On peut sauter. Oui, peut-être. Tu verras ça avec Dieu. Bon, je peux te rassurer. Moi, parfois, je sers trop du plat à mon fils. Mais Dieu sait exactement combien on peut manger. Il y a un verset qui dit que Dieu ne nous tente pas au-delà de nos forces. Dieu ne nous éprouve pas au-delà de ce que nous pouvons faire. Et chaque fois qu'il nous met une épreuve, il nous donne aussi la solution pour en sortir. Ça, c'est bon à savoir. Et pour continuer dans mes souvenirs d'enfance, chez ma grand-mère, figurez-vous que le dessert, c'est la première chose qu'elle prépare. Et elle le pose sur une desserte à côté de la table. Comme ça, on l'a bien en vue pendant tout le repas. N'est-ce pas, ça motive. Parce que les desserts de ma grand-mère sont super. Eh bien, Dieu, c'est pareil. Figurez-vous que pour Dieu, le dessert, il l'a préparé d'avance. Matthieu 25, excusez-moi. « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. » Waouh. Mon dessert, c'est pas... je sais pas s'il y a un yaourt dans le frigo à la fin du repas. Non. Le dessert dans la vie chrétienne, il est préparé d'avance depuis la création du monde. Mais il faut avoir mangé le plat. J'espère que avec Paul, vous pourrez dire car j'ai... excusez-moi. Et quel plat ? C'est ça la question. Le plat, c'est le plan de Dieu pour notre vie. Dans notre texte de Josué, on ne parle pas de dessert. Vous êtes d'accord ? Ils se sont arrêtés à l'entrée, ils vont manger le plat, il n'y a pas de dessert. Entre nous, à ne pas confondre avec le désert, parce que ça, ils en ont mangé. Mais nous savons que l'établissement d'Israël dans le pays promis n'était qu'une étape dans le plan de Dieu plus large pour le salut de tous les hommes. Et là, nous nous retrouvons avec notre dessert. Alors, est-ce que vous mangez au restaurant de temps en temps ? Oui. Alors, si vous connaissez un peu les cartes de restaurant, je vous laisse deviner mon dessert préféré. Alors, il y en a plusieurs, ça dépend de la carte. Ah, non. 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 Le ? Ah oui. Parce qu'en fait, il y a plusieurs desserts en un. C'est ça qui est chouette dans le café gourmand. Alors. Ouais. Merci. Eh ben, figurez-vous, ce que je trouve vraiment chouette, c'est que Dieu n'a pas juste préparé un dessert. D'accord. Il a préparé un café gourmand. Et ça, vous pouvez le relire dans Apocalypse 2. Il y a toute une farandole de desserts, des récompenses pour les vainqueurs. Alors, pour vous mettre un peu l'eau à la bouche, le premier, le fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Les fruits au dessert, c'est bon. Celui-là, je pense qu'il va être succulent. Ensuite, la manne cachée. Pour vous rappeler un peu ce que c'est la manne. Alors les Israélites dans notre texte savaient exactement ce que c'était la manne. La manne, c'est la nourriture que Dieu a donnée aux Israélites dans le désert. C'est la nourriture céleste. Et elle était de la taille d'un grain de coriandre. Elle était blanche et avait le goût de gâteau au miel. Alors ça, Et avec ça, une pierre blanche. Et sur cette pierre est gravé un nom nouveau que personne ne connaît, sauf celui qui le reçoit. Waouh ! Ça, c'est un beau dessert. Ensuite, la vie éternelle, l'autorité sur les nations et l'étoile du matin. L'étoile du matin, c'est une expression pour désigner Jésus. Est-ce que je vous ai mis l'eau à la bouche ? Oui ? Alors, vous trouverez d'autres desserts célestes en feuilletant le Nouveau Testament. Je ne les ai pas tous énumérés. Mais pour un tel dessert, est-ce qu'il ne vaut pas la peine de recommencer à retrousser les manches, de recommencer à se battre pour rentrer pleinement dans le plan de Dieu? Voilà. J'espère que la prochaine fois que vous mangerez, vous ne vous arrêterez pas à l'entrée et que vous y repenserez quand vous mangerez un plat entrée, plat, dessert. Sur le fromage, on attend l'explication de Caro la semaine prochaine. Pour conclure, je voudrais conclure avec Paul en disant « Non, mes frères et sœurs, je rajoute, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix. » Donc, en d'autres termes, je ne suis pas arrivée au dessert. Mais je fais une seule chose. Oubliant ce qui est derrière moi, étendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a donné du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Et si sur un point quelconque vous pensez différemment, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. Amen.